qui est, en fait, ce qui est effarant dans cette histoire, après, c'est d'entendre les déclarations de certains ministres. Il y en a un qui on peut donner le pompon. Je ne sais pas si c'est le prix de l'humour politique, du cynisme, de l'incompétence, de l'inconscience. Vous choisissez votre catégorie. C'est Édouard Geffray, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Au moment où on a des enseignants, des professeurs qui disent « c'est pas possible, nous-mêmes on se sent mal, on a des enfants qui font des malaises dans les salles de classe », voilà ce que dit le ministre de l'Éducation nationale. Écoutez attentivement, ça vaut son pesant d'air frais.
Non, je n'ai pas de climatisation au bureau, ni climatiseur, ni ventilateur. Je considère que j'en aurai un le jour où tout le monde en aura un. Et tant que ce ne sera pas le cas, je resterai avec mes 35 à 38 degrés quotidiens.
Voilà, il n'a pas de climatiseur dans son bureau. Il en mettra un par solidarité. Il en mettra un quand tout le monde sera climatisé. Voilà
quel
ce que dit
courage,
le ministre.
Quel courage. Ça ne va pas être tout de suite parce que gouverner, c'est prévoir. Hein. C'est l'adage. Gouverner, c'est prévoir. Et en France, on s'aperçoit que gouverner, c'est gérer l'urgence. Comme on ne prévoit pas, on gère l'urgence. Alors, on fait des réunions interministérielles. Il y en aura une tout à l'heure. On lance des cellules. On ferme, on interdit. Et puis, on fait des grandes déclarations martiales. Vous avez entendu le fameux « plus jamais ça ». Plus jamais. Donc Emmanuel Macron a dit oui, on en a fait beaucoup déjà, mais on va en faire encore plus. D'ailleurs, on a tellement anticipé qu'on est obligé, et c'est ce que Le Cornu a annoncé hier, d'annoncer tout d'un coup une enveloppe de 600 millions d'euros pour permettre de rénover notamment les hôpitaux. Donc on voit bien que rien n'est prévu. 23 ans après la grande canicule, on s'aperçoit qu'à part les blocs opératoires à l'hôpital, peu d'endroits assurent une température tolérable. 35 degrés dans des chambres, c'est ce qu'on entend, hein, des témoignages. On est en train de s'expliquer maintenant qu'il faut la clim. On en reparlera tout à l'heure. C'est Sandrine Rousseau, vous imaginez, elle-même qui dit qu'il faut climatiser les hôpitaux, comme quoi tout arrive. Alors c'est vrai qu'on tape beaucoup sur le gouvernement, mais il faut rappeler par exemple concernant les écoles, seulement 7% des écoles en France sont climatisées et c'est la responsabilité exclusive des collectivités. Hein. Les écoles maternelles et élémentaires, c'est la mairie, le collège et le département et la région s'occupe du lycée. Donc si vous trouvez que l'école de votre enfant est une fournaise, vous ne tapez pas sur Édouard Geffray, vous allez voir votre maire et vous lui demandez des comptes. En plus, il vient d'être élu ou réélu.
Non, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'on nous a enlevé suite à la canicule de 2003. On nous a dit, maintenant, la journée de la solidarité, ce ne sera plus la journée de la solidarité, ce sera la journée qui nous servira à financer la climatisation dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est une journée qui rapporte à peu près 3 milliards d'euros.
Chaque année.
Donc, Bruno m'a aidé à la pub parce que mon cerveau est à 40 degrés et ramolli.
C'est un mathématicien.
Et que c'est un mathématicien hors pair. Ça veut dire qu'on a 69 milliards.
Alors, pour être précis, les 69 milliards, ils ont été utilisés. Je comprends. Hein, effectivement, c'est un reproche qui a été fait, mais ils ont été fléchés vers les EHPAD. Ils ont été fléchés vers...
9% des EHPAD sont climatisés.
C'est pas ça. C'est que dans les EHPAD, tu as l'obligation d'avoir une pièce rafraîchie, climatisée. Tu n'as pas l'obligation, alors c'est peut-être une erreur, tu n'as pas l'obligation d'avoir l'ensemble de l'EHPAD climatisé.
On n'a pas cramé 69 milliards pour une pièce.
C'est ce que j'allais dire, tu n'as pas cramé 69 milliards pour climatiser la salle de réfectoire, quoi.
Mais tu as raison, mais tu n'as pas que les EHPAD. L'argent a été fléché vers les établissements aussi d'aide aux handicapés, vers les allocations handicapées, et puis un troisième secteur d'activité.
Mais alors dans ces cas-là, pourquoi on a toutes les infrastructures qui accueillent du public, qui est censé être sous la responsabilité de l'État, qui sont en train d'être fermés, qui sont en train d'avoir des professionnels qui ont un droit de retrait, que les gens qui travaillent sont obligés de garder leurs gamins à la maison? Moi, faudrait bien m'expliquer où sont-ils passés. Et encore une fois, la climatisation, oui, mais il y avait plein de choses qui pouvaient être faites avant. Pourquoi dans le privé, on arrive à s'adapter avec les deniers personnels qui n'ont pas les revenus de l'État? Pourquoi on y arrive? Donc, à un moment donné, il va falloir remettre les chiffres d'équerre, c'est-à-dire on enlève toutes ces 1000 feuilles administratives qui nous coûtent un fric fou, on licencie ces gens qui ne servent strictement à rien à part nous faire des flyers pour nous expliquer comment boire et nous ventiler. Il y a un moment donné, il va falloir que l'État se préoccupe de ce qu'il doit faire et qu'il arrête de venir nous embêter sur notre vie.
Bruno.
Il y a un sujet, c'est aujourd'hui, Laurent l'a dit, 69 milliards, après c'est vrai qu'on va... Tu peux pas résumer ça à ça, mais c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, on demande au pouvoir public de quand même faire leur travail et de rendre les conditions de travail des gens, de survie des gens dans les hôpitaux, dans les écoles. Là, j'étais en discussion ce matin avec Fatima qui surveille le brevet. Et en fait, dans son collège, c'est l'enfer, c'est des bouilloires à tire-larigot. Et qu'est-ce que tu veux qu'un gamin se concentre ne serait-ce que 2 heures ou 3 heures sur un sujet, alors que le gamin, il a peut-être pas dormi de la nuit parce qu'il fait 50 degrés chez lui. Mais aujourd'hui, tu vois, on a un vrai sujet. Regarde, juste hier, le collègue là, de la RATP qui a fait son malaise. C'est Pécresse qui est responsable des achats des bus. En fait, c'est comme ça, c'est IDFM. Donc c'est elle de faire le taf. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas acheter de bus climatisé parce que ça coûte cher, machin et tout, et que peut-être qu'elle pense que le réchauffement climatique va s'arrêter, qu'on va revenir vers maintenant avec un refroidissement climatique important. Bah non. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans des transports en commun à Paris. Donc si fait comme j'ai talent avec le monsieur, c'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu vis dans un HLM, c'est une bouilloire thermique. Tu prends les transports, c'est une bouilloire thermique, et tu vas à ton travail ou des fois où tu fais des travaux, tu travailles dehors ou je ne sais quoi, tu travailles dans des conditions infernales. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas le respect du citoyen, il n'y a pas le respect du salarié, et il y a un vrai sujet avec ça, c'est que moi je pense réellement que les pouvoirs politiques, en plus moi ce qui me rend dingue, c'est de les entendre venir te dire ah ben moi l'autre là c'est Geoffrey là qu'on a vu tout à l'heure.
Édouard Geoffrey.
Moi j'ai pas la clim dans mon ministère, mais tu te fous de notre gueule en fait, sérieux. Moi j'étais, alors pour la réforme ferroviaire, j'étais partout. Les ministères, le Sénat et tout, je peux te garantir les ordres de la République, je sais ce que ça veut dire. Dans le bureau, t'arrives dans le bureau d'Edouard Fivet à l'époque, t'as l'espèce de bureau qui était à côté, c'est le bureau de Napoléon, je sais pas qui, tu vois, en fait. Tu regardes, t'as des espèces de tapisseries de Bussin.
C'est pas, oui, mais ça, la clim, ça.
Non, mais ça, c'est pas la clim. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, tout cet argent que tu prends et que les gens se mettent dans leur bureau, dans leur décor, l'autre, il t'explique qu'il a même pas de clim, il se fout de la gueule de tout le monde, en fait.
Non, il dit qu'il fait ça en solidarité avec les profs qui en ont pas.
Olivier, je vais être grossier à la télé à cette heure-là, mais je l'insulterai, mais comme c'est pas permis de dire ça.
Juste une seconde, Emmanuel, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Alain, quand on parlait du jeune homme de 19 ans qui est mort à cause d'un coup de chaleur et que la responsabilité va aller sûrement au patron.
Oui,
et bien dans ces cas-là, ouais. Et bien j'invite toutes les familles qui ont leur aïeul qui est en train de décéder dans les EHPAD publics, qui est en train de décéder dans les hôpitaux, vous allez aller porter plainte. Oui, c'est
un mensonge. Parce que on peut être critique, mais il faut reconnaître que dans les EHPAD, a priori, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, on a tiré les leçons quand même de 2003 par rapport aux personnes
les
plus âgées.
Mais dans les hôpitaux, les gens qui font des malaises.
Dans les hôpitaux, c'est incompréhensible. En fait, la seule obligation.
Dans les transports en commun, quand tu fais un malaise, tu perds 3 jours de boulot avec 3 jours de carence.
La seule obligation, c'est
de plainte et tu te fais rembourser.
La seule obligation, c'est climatiser le bloc opératoire.
Mais
effectivement, ensuite, il n'y a pas d'obligation, ce qui fait que tu as 35 dans les chambres.
Emmanuel, alors, et puis on va écouter.
Moi, personnellement,
Edouard,
je serais beaucoup plus modéré. On fait le constat, donc
il y a eu
1976-2003, 27 ans, 2003-2026, 23 ans. Il est clair, on l'a constaté dans les temps récents à Paris et ailleurs en France, l'intensité, la puissance de cette canicule est incroyable. Elle est encore très différente de 2003. Moi, j'étais directeur du Futuroscope en 2003. J'ai géré avec le bitume l'univers bétonné. C'était quelque chose d'incroyable tout l'été. Mais là, c'est encore plus fort. Il y a une intensité qui est effectivement sidérante. Moi, je pense au risque de surprendre et d'être caricaturé qu'il n'y a pas vraiment de prise sur le réchauffement climatique, sur ces phénomènes météorologiques, et on pourra faire toutes les politiques, toute la démagogie
du
monde.
Mais on peut s'adapter.
Voilà. Oui, s'adapter, certes, mais la recherche du bouc émissaire, c'est très français, mais je suis désolé, en raisonnant par l'absurde, il y a des gens qui meurent toute l'année. Tout le temps. Alors évidemment, il y en aura plus là, parce que c'est vrai que dès qu'on est fragile, moi-même, j'ai fait un commencement d'insolation pour avoir fait un peu du vélo au soleil il y a 2 jours.
Quelle idée.
C'est très surprenant.
Assez-toi. Oui,
France, c'est complètement con, surtout.
Ah, le mec qui fait du vélo à 15h.
Après, il est là au micro en disant « Oui, la responsabilité individuelle. »
La France...
Mais il fait chaud.
Chapeau l'artiste.
La France était un pays tempéré. Et d'ailleurs, le président Gérard Larcher du Sénat qui a rappelé cette expression pleine de bon sens, qui rappelle un peu l'école d'antan. La France était un pays tempéré. Moi, je viens plutôt au soutien de ce monsieur Geoffrey. Il me plaisait pas au début, mais je le trouve pondéré. Et croyez-moi, sa tâche n'est pas facile dans un tel contexte.
Édouard, bonjour.
Bonjour, Alain.
Bonjour, Geoffrey. Bienvenue, Édouard, parce que vous vouliez attirer notre attention sur votre cas personnel.
Oui.
Justement. Parce que vous êtes en chimio, en traitement, en ce moment.
C'est ça.
Quelle est la température, vous, à l'hôpital où vous allez vous faire soigner dans le Lot-et-Garonne, alors, à Bordeaux plutôt?
Alors, ouais, voilà, ouais, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Écoutez, actuellement, je suis en chimiothérapie, j'y étais lundi. Voilà, on est accueilli dans un bâtiment au 6e étage. 32 dans la chambre, quoi, 32 degrés dans la chambre. On était deux patients avec nos familles, enfin avec ma femme, moi, et elle, la patiente à côté avec son compagnon. Eh bien, écoutez, voilà, donc on arrive, chambre 32 degrés, un ventilateur avec une poche de froid chimique accrochée sur le ventilateur. Voilà, on est désolé, mais voilà, vous n'êtes pas du côté le plus frais de l'hôpital, comme on dit. Bah oui, non, ça, on s'en est rendu compte. Et écoutez, on arrive et tout. Voilà, les effets de la chimio, moi, ça fait un petit moment que j'en fais maintenant. Mais là, pour le coup, je peux vous dire qu'on est sorti de là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais sorti de là. J'étais vraiment, vraiment fatigué. Quoi.
Ah, bon, bien sûr, la jambe avec 33
degrés. Est-ce que dans le reste de l'hôpital, il y avait des zones de fraîcheur, des zones rafraîchies
Disons qu'ils ont, ils ont rénové quand même une partie du bâtiment, le parti justement où Alain, je crois qu'il disait tout à l'heure, le côté bloc opératoire.
Il y a une obligation.
Mais regardez, là, on a un hôpital qui nous coûte 3 milliards. Il n'y a rien qui est fait. Et je ne parle pas forcément de la clim. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une parcelle végétalisée, un toit plat qu'on peint en blanc. Rien n'est fait. Rien n'est pensé.
Au moins, tu peux gérer l'urgence. Et Jérôme Marty, notre médecin, était avec nous hier. Lui, dirige une clinique privée. À un moment donné, il y a aussi la responsabilité de la bureaucratie à la française. Rien n'empêche un directeur d'hôpital de se dire « Bon, les gars, là, il y a 7 jours de canicule, on va acheter quelques climatiseurs, on va les mettre dans les chambres prioritaires. » Enfin, à un moment donné, il faut un peu de la jugeote, il faut se bouger. Et pourquoi ça se passe mieux dans le privé? Parce que le patron de sa boîte, il est responsable de sa boîte, il est responsable de ses employés, il devra rendre des comptes, et puis surtout, il faut faire tourner la machine. Oui. On a l'impression que
c'est lui qui dirige
l'hôpital. Et malheureusement, on a retiré le pouvoir aux médecins. On leur avait redonné ce pouvoir pendant le confinement, le Covid. Maintenant, malheureusement, les technos sont revenus. Bah, rien n'empêche ces gens-là, s'ils dirigeaient un peu avec l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, de se prendre en main.
Bah, je donne l'exemple de l'école de ma fille.
Et pas attendre toujours qu'on arrive leur dire. Bah, alors, vous avez fait le plan clim.
Je te donne l'exemple de l'école de ma fille, qui est une école privée. Canicule, ils sont allés acheter 3 clims.
Ah, voilà.
Ils ont mis la salle de motricité, qui est une grande salle. Ils ont mis les 3 clims dans la salle et les gamins. Et ben là, après-midi, quand il fait vraiment trop chaud, ils mettent tous les gamins dans l'espace climatisé et ça joue aux cartes, ça fait des jeux de société, etc.
Édouard, bon courage à vous, mais je voudrais qu'on écoute Édouard Pierre qui est avec nous. Il s'appelle Dudou, qui est directeur de collège. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Quelle température dans votre établissement vous avez eu là ces jours-ci?
Pour le brevet.
Dites-moi.
On dépasse largement les 30 degrés dès le matin. C'est 32, 33 degrés à 8h30 le matin, voire 9h.
Ouais.
Et ça ne fait qu'augmenter dans la journée.
Quel type de bâti vous avez? Est-ce que vous pouvez mettre des stores, rafraîchir? Dites-moi, est-ce qu'ils sont déjà là?
Du bâti 100% béton.
Ouais.
On a eu des difficultés à avoir des volets. On a encore des salles qui n'ont pas de volets, qui sont exposées plein soleil pendant 7 à 8 heures par jour. Des fenêtres qui ne peuvent être qu'entrouvertes pour ventiler. Donc quand on nous dit de ventiler, encore faut-il pouvoir le faire ou sortir son tournevis pour tout démonter et puis ventiler. Et puis voilà. Et puis on met des ventilateurs autant qu'on peut, on ouvre les portes, mais quand c'est chaud, ben c'est chaud, ça ne refroidit pas la nuit, et puis ça ne fait que continuer de chauffer.
Mais justement Pierre, parce qu'aujourd'hui on ne va pas démolir votre collège, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rafraîchir si justement on devait affronter des périodes de canicule?
Tu végétalises, tu mets des ventilateurs.
Non, mais il date de quand déjà?
Il date de quelques années, il a été rénové, mais rénové, là aussi, je pense qu'on a affaire à des architectes qui ne vivent pas dans les établissements qu'ils rénovent et qui ont des belles idées pour mettre des baies vitrées et autres, et puis qui n'ont pas conscience des conséquences que ça peut avoir en termes de vie quotidienne. Et donc ça, il y a une grande réflexion à avoir à ce niveau sur le bâti scolaire, mais c'est pas faute de l'avoir dit et répété, mais ça demande une volonté politique nationale et territoriale qui n'est pas toujours présente. Effectivement, il faut végétaliser les cours, c'est ce que font certaines communes et ça fonctionne, c'est déjà du mieux. Il faut aussi voir le bâti scolaire sur les toitures qui sont des fois même pas isolées. Donc voilà, il n'y a pas de ventilation vraiment prévue. Vous avez des salles des fois de réunion qui sont totalement bornes avec un puits lumineux qui ne fait qu'apporter de la chaleur l'été sans même pouvoir ventiler quoi que ce soit. Il y a des aberrations qui sont dénoncées au quotidien, que l'on fait remonter, mais sans qu'il y ait quelques réactions que ce soit. Et puis on attend que ça passe, parce que c'est l'histoire d'une semaine, et puis dans une semaine, on parlera d'autre chose.
Et malheureusement, on passera à autre chose.
Ça va revenir. Après, ça revient.
Quand c'était exceptionnel, on pouvait se dire, bon, c'est un mauvais moment à passer. Là, on voit bien que nous vivions la deuxième canicule depuis le début de l'année, et tous les spécialistes vont dire que ça va se reproduire, ça va devenir banal. Donc,
on est au tout début de l'été, donc on est en menace pendant 3 mois.
Et on tirons les leçons et faisons en sorte d'être.
Merci à Pierre, merci à Edouard. Transport, école, hôpitaux, est-ce que les pouvoirs publics sont incompétents? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, 92%. Oui.